vivre une heure réellement en ta présence, où nous n'entendions pas une voix humaine, mais toi-même nous parler à chacun de nos cœurs, selon les besoins que tu nous connais. Ouvre nos cœurs, captive nos pensées, sois maître de notre intelligence, et que cette heure soit pour nous une heure qui vaudra mieux que mille ailleurs, pour la seule gloire de Jésus et notre bonheur suprême. Amen. Eh bien, mes amis, je pense que vous avez lu dans vos chambres ce chapitre 3 de Jean, au moins les versets que je vous avais mentionnés. Vous les avez peut-être même relus dans vos groupes, et vous serez peut-être ennuyés si je vous les relis encore. Mais vous savez très bien que souvent, on pose immédiatement des questions. On ne comprend pas ceci, on ne comprend pas cela, et on va tout de suite avec des questions. Alors qu'on ferait mieux de relire une troisième fois ces versets, et tout à coup, simplement dans cette lecture, on aurait la lumière qui nous a échappé la première fois. Alors, ce matin, je m'en vais simplement vous lire dans le Nouveau Testament en français courant. Ce passage que vous avez lu la plupart, je pense, dans vos Bibles second, d'autres peut-être dans la Bible de Jérusalem, ou dans la Bible du chanoine Hostie, peu importe le texte que vous avez lu, il y a des versions différentes, versions qu'on dit catholiques ou œcuméniques ou protestantes, mais croyez-le bien, c'est toujours la même Bible. Et à l'heure actuelle, avec les connaissances que les traducteurs ont, le texte que vous lisiez dans une Bible version catholique ou version protestante est un texte le plus exact possible, même si un mot est employé pour un autre. Il y a des mots synonymes. Dans le français courant, c'est simplement un vocabulaire plus réduit qui est employé, parce que nous avons remarqué que beaucoup de personnes n'avaient pas un très grand vocabulaire et qu'ils n'ont pas toujours un dictionnaire pour comprendre le sens des mots qu'ils ont lus. On a vu que l'évangile de Jean, par exemple, contenait qu'un vocabulaire de 700 mots. Et 700 mots différents, c'est le vocabulaire que possède un enfant de 6 à 7 ans. C'est ce qu'on a constaté. Et si vous lisez cet évangile de Jean, vous verrez qu'il est très profond, ce qui nous fait dire que simplicité dans l'écriture va toujours de pair avec profondeur. Ce n'est pas ce qui est compliqué qui est vraiment profond. Souvent, ce qui est le plus simple est le plus profond. Alors, permettez-moi simplement de vous relire, alors vous l'écouterez, vous pouvez suivre dans vos Bibles aussi, et vous verrez que c'est quand même la même pensée. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens, et qui était un chef des Juifs. Il vint une nuit auprès de Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne peut faire des miracles comme tu en fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. » On a voulu changer un petit peu parce que Jésus disait toujours « en vérité, je vous dis ». On n'est pas habitué dans nos pays à cette expression. Alors, on a voulu montrer que ce que Jésus disait quand il dit « en vérité », c'est réellement c'est la vérité, simplement ça. Alors, « je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît d'un père humain, que vous avez dans vos Bibles, ce qui naît de la chair. Hein? » Alors, la chair, ben, ça veut dire un père humain, n'est-ce pas ? Ce qui naît d'un père humain est humain. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour tout homme qui naît de l'esprit. Alors Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un grand maître du peuple d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? Je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous disons ce que nous avons vu. » Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Ici, Jésus s'associe à tous les prophètes qui sont venus avant lui et qui ont annoncé les choses qui arrivaient à ce moment-là. Alors, il prend avec lui tous les prophètes. C'est pour ça qu'il parle en disant « nous ». Nous parlons de ce que nous savons et nous disons ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Ce n'était pas seulement le témoignage de Jésus, mais c'était le témoignage aussi de tous les prophètes que Dieu avait envoyés à Israël avant Jésus. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses qui arrivent sur la terre. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses qui arrivent dans le ciel? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. » Cette expression, le Fils de l'homme, est une expression que Jésus employait souvent pour se désigner lui-même. Il s'appelait le Fils de l'homme, ce qui ne veut pas dire qu'il était le fils de Joseph, hein, mais qu'il avait réellement revêtu notre humanité. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain sur un poteau dans le désert, comme nous voyons cela dans l'Ancien Testament, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme, vous avez, vous, quiconque, hein, bien, vous comprenez bien que c'est tout homme, qui croit en lui, ne périsse point ou ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Donc le Fils de l'homme, c'est le Fils unique de Dieu. Voici d'où vient la condamnation. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes aiment mieux l'obscurité que la lumière. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, hein? Pourquoi? Parce qu'ils agissent mal. Un enfant peut comprendre ça. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, car il a peur que ses mauvaises œuvres apparaissent en plein jour. Mais celui qui fait ce qui est vrai vient à la lumière afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies dans l'obéissance de Dieu. Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'entendre à nouveau et donne-nous de la comprendre pour la vivre. Amen. Bien, mes amis, en ce matin du 24 octobre 1981, vous avez lu personnellement ce chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Et cette nuit, nous avons demandé à Dieu, en priant pour chacun de vous, parce que nous avions la liste de vos noms, et nous vous avons présenté vraiment à Dieu individuellement, en pensant à vous, quand nous mentionnions votre nom devant le Seigneur. Et nous avons demandé à Dieu qu'il vous révèle, à votre âme, qui était Jésus, cet homme que le pharisien Nicodème vint trouver de nuit dans une ville qu'on connaît bien, cette ville de Jérusalem. Et cela se passait il y a bientôt 2000 ans, vous direz, mais il y a bien longtemps, mais en tout cas, dans cette ville de Jérusalem, si Dieu m'accorde encore la vie quelques jours, j'y serai la semaine prochaine. Donc c'est une ville de la terre, c'est une ville où j'ai habité plusieurs jours et même plusieurs mois, si je compte toutes les fois où j'y suis allé, de sorte que Jérusalem est sur la carte de deux géographies, et même presque chaque jour maintenant, dans les journaux, vous avez des nouvelles de cette ville où il s'est passé un événement extraordinaire, il y a bientôt 2000 ans. Et hier soir, en vous présentant le plan que nous suivrions pour développer le thème de notre traite, qui, comme vous le savez, est intitulé « Les trois âges de la vie chrétienne », nous vous disions qu'il était important que nous répondions d'abord à une première question. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Est-ce simplement la vie de ceux qui ont été baptisés pour le Seigneur Jésus, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dans un foyer dit chrétien, qu'il soit catholique, orthodoxe, protestant ou évangélique? Vous savez vous-même que dans nos pays, le plus grand nombre des gens ont été baptisés. Et que devenus adultes, responsables, la plupart de ces personnes ne manifestent pas la vie de Jésus dans leur existence. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Nous vivons dans une époque où le rejet des vérités chrétiennes s'accentue de plus en plus. Chacun pense avoir sa vérité et suit tout simplement les penchants de son propre cœur. Et la personne de Jésus-Christ, sinon sa doctrine même, est de plus en plus méconnue. On garde bien un peu sa morale, et encore. Mais la personne de Jésus n'est pas vraiment connue. Nous assistons au déclin d'une foi véritable en Jésus-Christ. Jésus l'avait prédit. Luc 18, verset 8, il disait ceci, « Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, parce qu'il reviendra, il l'avait promis, hein, trouvera-t-il de la foi dans ce monde ?» Nous assistons aujourd'hui au déclin d'une foi véritable en Jésus, à la disparition d'une véritable espérance en son nom et en sa venue, comme l'apôtre Pierre l'écrit dans sa deuxième épître. Il est dit que dans les derniers jours, les hommes diront « Où est la promesse de sa venue ?» Depuis le temps qu'on parle de cela, et rien ne se passe. De sorte que le monde est de plus en plus dans les ténèbres et n'a pas d'espérance. Et puis, on assiste encore à un troisième phénomène, c'est le refroidissement de cet amour brûlant qui animait autrefois les apôtres et les premiers confesseurs de la foi au Christ qui pouvaient mourir en témoins et en martyrs pour Jésus. Souvenez-vous des arènes romaines où on jetait des esclaves païens convertis par la prédication de Paul ou de Pierre et qui mouraient en confessant le nom du Seigneur, pro Christo, pour Christ, alors qu'ils étaient jetés aux lions. Ils n'avaient pas peur de mourir pour la cause de Jésus. Eh bien, aujourd'hui, dans ce monde où l'iniquité va en augmentant, nous assistons à un refroidissement dans toutes les églises. Il fait froid. Il n'y a plus cet amour, cette chaleur qui devrait être communicative et qui devrait attirer des gens qui, dans ce monde, n'ont pas d'espérance. Il faudrait qu'ils comprennent, qu'ils sachent qu'il y a dans ces églises, dans ces milieux où des gens qui se réclament de Jésus se rassemblent encore, cet amour vivant pour le Seigneur qui se manifeste dans l'amour que l'on a pour notre prochain, pour nos frères. Eh bien, il commence à faire froid, non seulement dans le monde, mais aussi dans bien des églises, malgré toutes les activités dites chrétiennes. Alors, si la vie chrétienne n'est pas la vie des gens qui ont été baptisés, qu'est-ce donc que la vie chrétienne qui est censée se développer dans l'existence de ceux qui la reçoivent et que nous vous présenterons dans ces trois phases, l'enfance, cet après-midi, la jeunesse, et enfin, demain matin, la maturité. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne, si ce n'est pas simplement la vie des baptisés? Je le dis sans hésitation, et je supplie l'Esprit de Dieu de vous convaincre, la vie chrétienne, c'est la vie même de Jésus. La vie de Jésus manifestée en tous ceux qui l'ont reçu, parce qu'il y a un jour où l'on reçoit cette vie. Et on la reçoit par une foi personnelle. Une foi qui n'est pas une simple adhésion intellectuelle aux vérités du christianisme, mais une adhésion du cœur, une adhésion de l'intelligence, une adhésion de notre volonté à la personne même de Jésus, reçu comme sauveur et Seigneur de notre vie, et connu de plus en plus comme notre bien-aimé. Et cela, mes amis, c'est pas un message d'un homme évangélique, c'est le message de tout l'Évangile. Et je me souviens qu'au début de ma vie à Montréal, alors que j'étais dans le plâtre, dans mon lit à Montréal, j'ai eu l'occasion d'entendre le cardinal Léger prêcher à la radio et il disait exactement ces choses-là. Ce n'est pas parce que vous avez été baptisé que vous serez sauvé, c'est parce que vous avez eu cette foi, non pas en certains dogmes, en certaines vérités seulement, mais en la personne de Jésus. Et mon cœur éclatait de joie, car c'était une prédication retransmise à la radio, et il la faisait, si je ne m'abuse, à l'oratoire Saint-Joseph. Alors, un homme tel que moi, enfermé dans son plâtre, se réjouissait de penser que sur les ondes, un tel message était donné. Que ce soit par un cardinal, que ce soit par un pasteur, que ce soit par un laïc, comme on les appelle, peu importe, c'était la vérité biblique. Et le Seigneur peut amener une âme à sa connaissance par tous les moyens, puisqu'il a même employé une fois une ânesse pour reprendre la folie d'un vieux prophète. Balaam, hein? Et puisque Jésus a dit aussi en entrant à Jérusalem, si ceux-ci se taisent, qu'est-ce qu'il y aura? Les pierres crieront. Alors nous sommes de ceux qui ont le cœur ouvert à la vérité du Seigneur et qui se réjouissent quand cette vérité est proclamée, quel que soit celui qui la proclame. Car la vérité, c'est la vérité. Et nous nous réjouissons. Comme le Seigneur, quand il voyait un païen et qui croyait en lui et qui obéissait à sa parole, quand Jésus dit à ce centenier romain, qui lui dit « Viens, descends dans ma maison, mon fils est atteint d'une maladie, il est à la mort. » Jésus lui dit « Va, ton fils vit. » Et cet homme s'en est allé, sans voir. Et quand il arrive à la maison, eh bien, il apprend que, à l'heure même où Jésus avait dit cela, son fils avait connu la guérison. Et Jésus a dit à ce moment-là, « J'ai jamais vu en Israël une si grande foi. » Il faut être Jésus pour admirer la foi d'un païen. Hein, ça, c'est magnifique. Eh bien, je voudrais qu'on ressemble un peu plus à Jésus. Et que nous soyons aussi de ceux qui se réjouissent quand ils voient la vérité exprimée d'une manière ou d'une autre. Donc, la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus que l'on reçoit par une foi vivante qui est celle du cœur et qui embrase vraiment toute notre personne. Alors, arrivé à cette constatation, nous devons reconnaître que nul de nous n'est entré dans ce monde avec la vie de Jésus en lui. Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait se lever et dire, moi, j'ai fait mon apparition dans ce monde avec la vie de Jésus en moi. Je pense que je pourrais attendre longtemps. Que nous soyons nés de parents athées, de parents juifs, de parents musulmans, de parents chrétiens d'origine, catholique, orthodoxe ou protestant, nous sommes tous nés de la chair. Nous avons tous reçu la même nature humaine. On a dit que les enfants, les petits-enfants, savaient dire non avant de dire oui. Non. Le petit bébé, après avoir dit ou peut-être papa, maman, il sait déjà montrer sa petite volonté qui s'oppose peut-être à celle de sa mère. Là, nous savons tous que nous avons la même chair, que nous avons la même nature. Nous sommes nés de la chair et comme le disait Jésus au pharisien Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Hein? Il y a un arabe que j'aime beaucoup. Vous savez ce qu'il disait? Je ne sais pas si vous serez d'accord avec lui. Je cite un arabe cette fois. Nous, nous sommes sortis du sein maternel. Vous, vous êtes sortis avec votre chemise. Hein? L'arabe disait, nous, je suis sorti du sein maternel. Nous, je retournerai au sein de la terre. que même si on a des habits, on sait bien ce qui se passe. Eh bien, cet arabe disait cela. Vous savez de qui je parle?
De Job.
Et vous allez lire cette histoire de Job, parce que c'est quelque chose d'absolument passionnant. Job était un arabe, oui. Vous avez cela avant le livre des psaumes, toute l'histoire de Job, un homme qui était très éprouvé, qui était très riche, qui a perdu sa situation, qui a perdu ses enfants. Il a eu 10 deuils dans sa famille dans une seule journée. Je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui ont perdu des êtres chers. Eh bien, dites-vous qu'avant vous aussi, il y en a eu d'autres qui ont passé par le même chemin et qui, au lieu de se révolter et de dire pourquoi, ont dit, eh bien voilà, nous avions reçu les biens de la main de Dieu. Pourquoi ne recevrions-nous pas les maux? Oh, Job était brisé quand il disait cela, mais il n'a rien attribué à Dieu qui fût inconvenant. L'histoire de Job. Eh bien oui, nous sommes sortis du sein maternel. Que nous soyons nés dans une famille riche ou dans une famille pauvre, nous n'avons rien apporté. Hein. Et puis nous n'emporterons rien. J'aurai quelques histoires à vous raconter dans la suite. Mais quelle était alors cette vie de Jésus? Et qui était ce Jésus dont l'existence excitait la curiosité des hommes de son temps, même d'un docteur de la loi de Moïse, qui osa avoir un tête-à-tête avec Jésus? Parce que vous savez, c'était compromettant ce temps. Rencontrer Jésus quand on est docteur en Israël, quand on fait partie de la secte la plus exacte qui suivait la tradition des pères. Eh bien, il a osé avoir un tête-à-tête avec Jésus. Vous me direz, oui, mais il est allé de nuit pour qu'on ne le sache pas, qu'on ne le voit pas aller chez Jésus. Mais moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous y êtes déjà allé vers Jésus de nuit? Si vous n'avez pas osé y aller de jour, est-ce que vous avez eu, vous, votre tête-à-tête avec Jésus jusqu'à ce jour du 24 octobre? Est-ce que vous vous êtes contenté simplement de dire « je suis baptisé, je suis catholique, je suis protestant, je suis orthodoxe, j'ai la religion de mes pères, il n'est pas question que je change, moi je ne suis pas ici pour vous faire changer de religion, mais je suis ici pour vous demander... Ce Jésus, que catholiques, protestants ou orthodoxes réclament comme leur sauveur, ce Jésus qui commence maintenant, même en Israël, d'être reconnu comme un des grands juifs, ce Jésus que les musulmans reconnaissent comme prophète, vous, dix chrétiens, que pensez-vous de lui? Est-ce qu'il y a eu ce moment dans votre vie où vous l'avez rencontré? Vous me direz, mais comment? Moi, je n'ai pas des visions, je ne suis pas Bernadette ou une autre femme quelconque. Mais si vous vouliez bien retourner dans vos chambres, fermer la porte sur vous, et dire au Seigneur, Seigneur, puisque tu existes, tu peux te révéler aussi à mon âme. Et si vous prenez une attitude humble, non pas comme le faisait Mussolini, qui a fini drôlement, hein, pendu par les pieds, mais qui avait dit, si Dieu existe, je lui donne 2 minutes pour me faire mourir. Puis il n'est pas mort. Alors Dieu n'existait pas, mais il est quand même mort un jour. Et d'une manière bien misérable, finissant par être pendu par les pieds à Milan, alors que la foule qui l'avait acclamé les années précédentes en disant « viva il Duce » venait cracher à son visage. C'était quelque chose de monstrueux, cette vision de Mussolini et de sa maîtresse Clara Petacci, pendu aussi par les pieds. Oui, vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez dire, si Dieu existe, eh bien, que je meure. Il vous aime tellement qu'il ne vous fera pas mourir. Pourquoi? pas parce qu'il n'existe pas, mais justement parce qu'il existe, et que Dieu ne veut jamais la mort des pécheurs, et qu'il ne les exauce pas toujours, parce qu'il les aime, il voudrait leur donner du temps, pour revenir de leur folie, pour se convertir, et vivre. Mais un jour, vous savez, on ne se moque pas de Dieu, un jour la mort a pris aussi le doute. Alors je vous demande à vous, avez-vous une conviction au sujet de l'être qui a donné son nom à notre ère? Nous sommes dans l'ère dite chrétienne. Et même les athées ici au Québec ou dans le monde entier, dans ce monde christianisé, quand ils signent leur courrier, qu'est-ce qu'ils reconnaissent? Quelle date est-ce qu'ils mettent? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mettrait? 24 octobre 1981. Pourquoi 1981? Parce que nous sommes dans cette ère à laquelle Jésus a donné son nom. Donc on reconnaît qu'on est dans l'ère chrétienne, que Jésus n'est pas un mythe. C'est pas un mythe qui a pu donner une histoire pareille à l'humanité. Et quand je pense que maintenant, des Juifs qui étaient fermés vis-à-vis de Jésus nous disent et écrivent à des chrétiens, nous voudrions au moins que vous reconnaissiez que Jésus a vraiment existé. Des Juifs qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ, hein, mais qui reconnaissent sa vie, sa réalité humaine, alors que beaucoup de baptisés n'y croient même plus. C'est quelque chose d'effarant. Jésus, est-ce que vraiment il a existé? Dire qu'il y a des pasteurs et des prêtres qui doutent même de sa résurrection. Bon, eh bien, on veut bien encore qu'il ait existé. Mais qu'il soit né de la Vierge Marie et conçu du Saint-Esprit, allez le dire à Dieu. Nous avons la tête sur les épaules. Et nous ne pouvons pas admettre qu'un être soit conçu du Saint-Esprit. Et voilà ce que vous entendez, même dans des facultés de théologie. Vous voyez quels apôtres peuvent sortir de ces boîtes, si j'ose m'exprimer ainsi, avec tout le respect que j'ai pour les grands maîtres de la théologie. Mais que veulent-ils dire à des âmes qui sont dans la détresse? On ne devient plus que des fonctionnaires. Et c'est ce qui faisait dire à un curé de mes amis un jour qu'il était chez moi, écoutez, si vous voulez que quelque chose change, priez pour que nos curés, nos pasteurs se convertissent. Il faudrait peut-être commencer par là. Pour que le peuple soit atteint et rencontre des hommes qui y croient encore. Parce que vous savez, si je n'y croyais pas, nous n'organiserions pas une retraite semblable à celle-là. Nous avons trop de respect pour vous. Pour vous faire perdre du temps, nous essayons de vous amener dans un site favorable, dans un lieu agréable, mais ce n'est pas pour vous mener en bateau. On n'est pas à Venise ici. Je ne vous propose pas de la gondole. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Et c'est un moment solennel dans votre vie. Oui. Même l'athée, quand il signe son courrier, il reconnaît l'existence de Jésus-Christ. Alors, que pensez-vous de lui? Qu'est-il pour vous? Est-ce qu'il est un grand homme, seulement, un grand prophète, le fondateur de la meilleure des religions, ou bien un révolutionnaire? Parce que vous savez, on aime bien dire que Jésus était un révolutionnaire. Et je sais très bien que je pourrais présenter Jésus d'une certaine manière dans un meeting communiste et me faire acclamer Il y a une façon de présenter Jésus, le premier communiste, le premier des socialistes. Parce qu'il avait un programme, lui aussi. C'est vrai. Un programme qui tenait. Mais on peut aussi le présenter comme le premier des réactionnaires. Le grand réactionnaire. Alors, la droite, la gauche s'emparent de Jésus, le centre aussi. Chacun veut quand même Jésus. Hein, c'est vrai. Ça fait bien quand même. Hein. Tout le monde accapare Jésus. On met même son nom sur les plaques d'automobile devant, maintenant qu'il manque une plaque devant. C'est pas toujours son chum qu'on met, hein. Il y en a qui mettent aussi Jésus. Ou le nom de sa femme ou de sa maîtresse. Alors le nom de Jésus, tout va bien. On fait de l'évangélisation rapide comme ça. Puisqu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il fallait être sauvé, eh bien, prenons le nom du Seigneur dans la boue. Comme ça, les gens le connaîtront. Faites attention, mes amis. On ne doit pas prendre le nom du Seigneur en vain. Alors, les Écritures, tant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, témoigne que la vie de Jésus n'était pas celle d'un simple homme, mais réellement celle du Messie promis par la loi, les psaumes et les prophètes, les trois parties de l'Ancien Testament. La vie même de Dieu manifestée au monde dans un corps de chair qui a été formé dans le sein de la Vierge Marie. Voilà ce que toutes les Écritures, Ancien Testament comme les Évangiles, témoignent. Cette vérité traverse toutes les Écritures, de même que les Épîtres, les Lettres des Apôtres, donc, jusqu'au dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, qui veut dire Révélation de Jésus-Christ. Donc, il faut avoir une révélation de Jésus-Christ. Et Dieu peut vous la donner. Oh, si vous la demandez aujourd'hui. Oh Dieu, révèle-moi qui est ton Fils. Il ne va pas se moquer de vous et vous n'aurez pas besoin de moi pour savoir qui est Jésus. Alors, écoutons le début de cet évangile dont vous avez lu une partie du chapitre 3 ce matin. Qu'est-ce qu'il est dit ? Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'existe. Et puis au verset 14, il est dit, et la parole, donc qui était Dieu, qui était auprès de Dieu, devint chair, et nous vîmes sa gloire. Une gloire comme celle d'un Fils unique venu de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Puis ensuite, il est dit, personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Donc, dans l'évangile de Jean, il est affirmé que ce Jésus, qui a été vu sur les routes de Palestine, c'était Dieu manifesté en chair, Dieu invisible qui répondait aux besoins du cœur de l'homme, qui disait « nous voudrions voir Dieu ». Eh bien, Dieu s'est incarné, Dieu est venu dans la personne de Jésus. Et si vous écoutez maintenant le témoignage de cet apôtre Jean qui a écrit l'Évangile, mais qui a écrit aussi trois lettres, dont la première de ces lettres que vous trouvez vers la fin de vos Bibles, il parlait au soir de sa vie, de ce Jésus qu'il avait connu. Comment en parlait-il? Il disait ceci, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui qui était où? Auprès du Père, et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que votre tristesse soit complète. C'est ça? Afin que votre joie soit parfaite. Mais moi, je voudrais que vous ayez cette joie en quittant ces lieux. Que vous ayez maintenant une conviction au sujet de Jésus et que vous puissiez partager cet élan du cœur de l'apôtre Jean qui dit « Nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nos mains l'ont touché. » C'est vrai. Et cette vie éternelle, on l'a vue. Donc la vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus. La vie éternelle, c'est pas quelque chose. C'est pas une doctrine. La vie éternelle, c'est quelqu'un. Quelqu'un qu'un jour vous recevez dans votre vie et qui devient votre Seigneur et votre Sauveur. Alors, je reviens à Nicodème, qui avait vu Jésus agir et prêcher à Jérusalem. Il l'avait même vu faire des miracles. Alors, lui, il voulait savoir qui était Jésus. Parce qu'il est dit que beaucoup croyaient en Jésus. Dans le chapitre 2, si vous avez lu les derniers versets du chapitre 2, il est dit que parce que Jésus avait fait des miracles, plusieurs crurent en lui. Mais il est ajouté que Jésus ne se fiait pas à eux. Ça ne suffit pas de dire « Oh, mais moi je crois » ou d'avoir pris une décision pour Jésus parce qu'on est un peu ému. Il est dit « Jésus ne se fiait pas à eux » parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Bien, Jésus sait ce qui est dans votre cœur. Vous pouvez me tromper, moi, vous pouvez tromper votre curé, vous pouvez tromper votre pasteur, vous pouvez tromper votre femme, vos enfants, sur la réalité de votre foi. Il y en a un que vous ne pouvez pas tromper, c'est Jésus. Alors, Nicodème vient parce qu'il voudrait être plus au clair. Et à sa question, vous avez entendu la réponse de Jésus. Il lui fait d'abord des compliments en disant « Nul homme ne peut parler comme toi si Dieu n'est avec lui. » Et le Seigneur l'interrompt tout de suite. Il n'a pas besoin d'éloge. Et il lui dit tout de suite « en vérité, je te dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Alors la réponse de Nicodème, mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous vous êtes peut-être posé aussi cette question. Et quelle est la réponse de Jésus? Verset 5 et suivant, Jésus lui dit de nouveau, « en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et il lui parle qu'il ne doit pas s'étonner, qu'il lui ait dit, « il faut que vous naissiez de nouveau. » Puis il prend l'exemple du vent. Et il lui dit, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Ça, vous l'avez constaté, hein, j'ai pas besoin de vous donner des explications. Le vent, tout à coup, s'élève, vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Nicodème ne comprend pas encore. Peut-être que vous non plus, vous n'avez pas compris. Alors, ne vous inquiétez pas trop. C'est un homme très instruit. Mais vous savez, il faut mettre de côté votre instruction, peut-être. Jésus disait, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut d'abord faire cet acte d'humilité. Et dites-lui, mais comment est-ce que ça peut se faire de naître de nouveau? Alors Jésus s'étonne quand même. Il dit, mais tu es un docteur en Israël? Tu enseignes les autres et puis tu ne peux pas comprendre cela? Et Jésus montre qu'il existe deux royaumes. Et vous le savez aussi qu'il existe deux royaumes. Hein? Un royaume dans lequel on entre par la naissance physique. C'est vrai, vous êtes entré dans un royaume, même s'il n'y a pas de roi au Québec. Hein? Il y a une reine. Elle est loin. Mais enfin, où que vous soyez né, c'était un royaume, disons. Une terre. Hein? On entre sur cette terre par la naissance physique. C'est le royaume du monde. Puis, ce royaume, on le sait, c'est un royaume qui vit sans Dieu et dont le prince est Satan, qui est le meurtrier et le menteur dès le commencement. Vous êtes né là, par la naissance physique, dans un royaume de peur. C'est vrai ou c'est faux? Avant même de naître, nos parents ont eu peur. Hein? Le père avait peur que la mère y laisse sa vie en couche. Hein? Donc, dès notre naissance, on entre dans le royaume de la peur. Puis, même quand l'enfant vit, on a peur, déjà, dès les premiers jours, qu'il nous soit enlevé. Donc, nous entrons dans un royaume de peur, dans un royaume de mort. Et si vous voulez un peu le contempler, c'est le royaume de l'injustice. Injustice sociale, injustice dans tous les domaines. Un royaume où la corruption règne, où le meurtre, le vol, l'adultère, la violence sont prônés partout. Tout ce qui est contre la loi de Dieu est commis aujourd'hui dans ce royaume. Alors c'est là que nous naissons. Et on peut bien dire que ce royaume a pour prince qui ? Satan. Et Jésus disait que Satan était un meurtrier. Et un menteur. Nous sommes dans un royaume de mensonges. Regardez un peu, en qui peut-on avoir confiance? Dans la propagande électorale? On nous fait des promesses? On ne les tient pas. C'est le mensonge partout. Alors on est dans ce royaume. Mais Jésus nous montre qu'il existe un autre royaume. Le royaume de la lumière, de la vie, le royaume de l'amour, le royaume céleste. Et il nous dit que dans ce royaume, on y entre par quoi? Par une seconde naissance, par une nouvelle naissance. Une naissance d'eau et d'esprit. Alors vous me direz, mais alors comment est-ce que ça se fait? Une naissance d'eau, alors on pense tout de suite à quoi? Au baptême. Donc il suffit qu'on soit baptisé et nous sommes nés de nouveau. C'est ce que certains ont pensé. Mais dans la pratique, on voit bien que ce n'est pas cela, que le baptême administré avec beaucoup d'eau ou avec peu d'eau, parce que ce n'est pas la quantité d'eau, hein, parce qu'il y en a qui mettent quelques gouttes, il y en a maintenant qui font le baptême par immersion des petits-enfants, et puis qui se demandent comment il faut le tremper pour qu'il ne se noie pas tout de suite. On m'a téléphoné ça l'autre jour depuis Québec pour que je dise comment un prêtre pouvait maintenant baptiser sans noyer l'enfant, parce que on s'était souvenu que moi, on m'avait baptisé par immersion quand j'avais 4 mois, et qu'on m'avait, pour ainsi dire, noyé. Parce que quand vous mettez l'enfant sous l'eau, et que vous dites, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et alors, c'est bien une image de la mort, mais on risque d'y rester. Le baptême est bien une image de la mort. Hein. Mais est-ce que c'est ce baptême extérieur qui nous fait naître de nouveau, c'est cela qu'il nous faut comprendre. Alors, ce que nous aurons l'occasion de voir, c'est que l'eau dont Jésus parle est toujours employée pour désigner la parole de Dieu. L'eau est une image de la parole de Dieu. Et quand vous entendez Jésus parlant à la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il lui promet? Si tu savais qui je suis, tu m'aurais demandé de l'eau vive. Et je t'aurais donné de l'eau vive. la parole de Dieu est toujours comparée à l'eau. Je pourrais vous citer les paroles de Jésus dans Jean 15, dans Jean 13, et surtout les paroles de Paul dans Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27, où il nous dit qu'on est régénéré par le lavage d'eau, par l'action de la parole de Dieu. Et dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 22 à 23, il nous dit que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, non par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ainsi que nous sommes nés à une vie nouvelle par l'action de la parole de Dieu. Et Nicodème, qui était un docteur de la loi, aurait dû se souvenir de ce que le prophète Ézéchiel avait annoncé dans le chapitre 36 du livre d'Ézéchiel. Vous verrez bien de quoi il est question. Le Seigneur nous dit par la bouche de son prophète, en parlant du peuple d'Israël, et il dit ceci, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que c'est un cœur amélioré, un cœur nouveau? Non. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de chair et je vous donnerai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur sensible. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est quelque chose de merveilleux. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Cette naissance d'eau, cette naissance de l'action de la parole de Dieu, quand vous l'entendez, et de la puissance du Saint-Esprit qui vous l'applique et qui vous fait vivre à une vie nouvelle. Donc, pour naître de nouveau, qu'est-ce qu'il faut croire? La parole de Dieu. C'est la première chose. Si vous voulez naître de nouveau, écoutez ce que vous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu a parlé. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que nous étions tous des pécheurs. Est-ce que vous l'admettez? Est-ce que Dieu a raison? Lui qui connaît nos cœurs et qui dit que nous sommes des pécheurs. Et il nous dit encore une chose, c'est que nous ne pouvons pas nous améliorer. Ça, vous ne l'admettez pas. Qu'est-ce qu'il vous faudra pour l'admettre? D'arriver au seuil de l'éternité pour dire, c'est vrai, je ne suis pas arrivé. Vous avez fait tous ces efforts en vain. Admettez que Dieu ait raison. Il vous connaît et il dit que vous ne pouvez pas même vous soumettre à sa loi. Il le dit, que tous les efforts de votre chair ne peuvent pas vous permettre d'accomplir sa loi et sa volonté. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il faut naître de nouveau. Il faut avoir un nouveau cœur. Mais naître d'eau, ça veut dire donc sortir de l'eau. Hein? Une naissance, c'est une vie qui sort d'une autre vie. Eh bien, nous aussi, nous devons naître. Mais pour naître d'eau, qu'est-ce que l'eau aura signifié? Mourir. Il faut que vous admettiez que vous ne pouvez pas vous changer, qu'il faudrait d'abord mourir. Mais vous n'avez pas le droit de vous suicider. Je dis pas suicidez-vous, que ça ira mieux. Hein? Parce que si vous vous suicidez, vous vous fixez dans l'état que vous voudriez quitter. Il est question que vous admettiez, je ne peux pas changer, j'accepte cette mort dont parle Jésus. Vous savez, le grain de blé, vous connaissez bien l'histoire du grain de blé. Prenez un grain de blé, mettez-le dans un écrin. Dans un mois, combien il y aura de grains de blé? Dans une année? Dans 1000 ans? Un grain de blé. Prenez le grain de blé, mettez-le dans la terre, qu'est-ce qui arrivera? 30, 60, 100, mais qu'est-ce qu'il aura dû, ce grain de blé? Mourir. C'est de la mort que va sortir la vie. Alors, naître d'eau et d'esprit, eh bien, c'est naître de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit qu'il est venu pour rendre notre nouvelle naissance possible. Il a accepté de mourir. Et c'est bien cela qu'il a fait. Jésus est venu, et je le répète, pour rendre cette naissance dont il parle possible. Cette nouvelle naissance sans laquelle personne ne peut être sauvé. Et il affirme que son témoignage est vrai. Il s'allie à tous les prophètes qui ont parlé avant lui, et il nous donne l'exemple de Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand les Israélites ont murmuré contre Moïse, contre Dieu, et qu'ils ont été mordus par les serpents, s'ils restaient avec la morsure du serpent, qu'est-ce qui leur arrivait? Ils mouraient. Alors Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, mets-le sur une perche, et toute personne qui regardera le serpent sera guérie. Eh bien, qu'est-ce que vous vouliez faire, vous? Dites-vous, vous étiez à la place des Israélites. Ah, un serpent! Hein, vous vous débattez. Vous vous débattez, vous essayez de l'enlever. Puis qu'est-ce qui arrive? Vous mourrez. Mais il y en a un autre qui dit, il a dit qu'il fallait le regarder. Oh, si vous levez la tête, tout à fait vous êtes guéri. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils croient, les Israélites? La parole de Dieu, peu importe le moyen. Regardez au serpent. Alors, Jésus dit, c'est la même chose. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, et que tous ceux qui regardaient au serpent étaient guéris, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il annonçait? Il annonçait sa mort et la nécessité de sa mort. Eh bien, de même que Moïse a élevé le serpent, le Fils de l'homme sera élevé, donc sur cette croix, et quiconque regardera à lui, croira en lui, qu'est-ce qu'il aura? La vie éternelle. Mais comment? Qu'est-ce qu'il aura fait? Rien, il aura cru. Il aura regardé. Vous n'avez pas à faire autre chose qu'à le croire, qu'à regarder au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est Jésus qui l'affirme que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a réellement donné son Fils unique afin que quiconque, tout être humain, croyant en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne peut pas vous mentir. Et voilà. Alors vous me direz, mais comment est-ce que ça se passe? Ben, comme le vent. Le vent souffle où il veut. Tu ne pourras pas expliquer comment ça s'est passé en toi. Mais ce que tu pourras dire, c'est vrai maintenant. Je sais que je suis né de nouveau. J'ai cru la parole et je me suis confié dans la parole. Et maintenant, le Saint-Esprit a opéré en moi et m'affirme dans mon cœur que je suis réellement un enfant de Dieu. Que vous êtes né à cette vie nouvelle. Dieu a voulu le salut de tous les hommes. Alors quand je vous dis, est-ce que vous avez la foi? Je ne vous demande pas, est-ce que vous croyez en l'existence de Dieu? Mais je vous demande, est-ce que vous croyez ce que Dieu dit? C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi, c'est croire le témoignage que Dieu a rendu au sujet de l'homme, que nous sommes perdus, et au sujet de son Fils, qui est le Sauveur. Et de la foi en ce double témoignage dépend votre salut présent et éternel. Vous n'avez rien à faire sinon qu'à croire. Croyez-vous ce que Dieu dit? Il est dit, Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui reçoivent le Christ, qui l'acceptent, il leur a été donné le droit, le pouvoir, de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, notez bien cela, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui vous fait naître à une vie nouvelle. Comment? En acceptant le Christ. Le Christ vous prend dans sa mort, comme nous le verrons cet après-midi, et nous entraîne, parce que, est-ce qu'il est resté dans la mort? Non. Il nous entraîne dans sa résurrection, de sorte que dans sa résurrection, nous avons quoi? Sa vie. Ce n'est plus notre vie qui s'efforce d'imiter Jésus, c'est la vie de Jésus en nous, souvenez-vous du grain de blé, c'est la vie du grain de blé qui a produit les autres grains de blé. C'est la vie de Jésus qui va produire les fruits pour Dieu. Alors, vous serez né à la vie de Dieu et pourra commencer la vie vraiment chrétienne, cette vie de Jésus qui a été adolescent, qui a été enfant d'abord, adolescent et homme fait, et qui veut reproduire en nous cette vie dans ses différentes étapes. Vous voyez pourquoi il fallait commencer par la naissance, avant de parler de la croissance. Il y a un jour où nous sommes nés d'en haut, où nous sommes nés de Dieu. Eh bien, je souhaite, s'il y en a qui n'avaient pas encore connu cette journée, que ce soit cette journée du 24 octobre qui marque le commencement de votre nouvelle existence. Et ne craignez pas, vous allez voir comment cette vie en vous va se développer comme la vie d'un enfant qui grandit, qui devient jeune homme et qui arrive à la maturité. Et comment, si vous avez cette vie, vous ne connaîtrez pas de vieillesse spirituelle. Parce que Jésus n'a pas été un vieillard. Il ne nous a pas donné l'image d'un vieillard. Sa vie va se développer et se manifester en vous. Eh bien, mon vœu, c'est que vous puissiez rester ouvert à ces vérités, que vous relisiez ce chapitre, que vous vous imprégniez de ces choses et que vous puissiez dire, comme il le dit, et c'est par ces versets que je termine, à la fin de ce chapitre 3, vous lisez encore ceci, verset 33, « Celui qui a reçu le témoignage du Seigneur a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils aura la vie, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et bien que réellement aucun de vous ne puisse rester sous la colère de Dieu alors qu'il vous offre la vie et la vie éternelle. Et qu'il nous prépare pour cet après-midi où nous nous retrouverons donc à 14h dans cette salle où je vous donnerai le texte que vous aurez à lire et à méditer pour vous-même pendant une demi-heure, où vous partagerez de nouveau dans l'autre demi-heure, et ensuite nous nous retrouverons pour étudier ce sujet de l'enfance spirituelle.